C'est la revue de presse des hebdos, la dernière de l'année. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
La couve du courrier international est illustrée par un dessin de Joep Bertrams paru dans Der Groene Amsterdammer aux Pays-Bas. Et ça fait peur, l'ours russe visiblement en colère, chevauché par un Poutine pas très frais.
Et le titre n'est pas plus rassurant. La rébellion avortée d'Evgeny Prigojine a mis en relief la faiblesse du pouvoir de Vladimir Poutine. Mais les représailles s'annoncent violentes. La rédaction du courrier avait préparé un dossier sur l'eau, un bien commun, essentiel, et de son nécessaire partage. Las, nous explique Claire Carrard, Evgeny Prigojine en a décidé autrement. Avons-nous assisté à un jeu à somme nulle ou bien à une révolte d'opérette, comme le qualifie l'article du Spiegel, à retrouver en entier dans le dossier en page 12. Vous y trouverez aussi un rappel chronologique des faits et les analyses des journalistes de la presse étrangère les plus qualifiés sur la Russie et les Russes, Poutine et Prigojine. Pour la journaliste Anne Applebaum de The Atlantic, ce week-end fou a révélé l'apathie de la population russe. Pour le Deník N, quotidien indépendant tchèque, Poutine a perdu. Vu de Russie, médias officiels et d'opposition ont une lecture évidemment radicalement différente de la façon dont les autorités ont géré le coup de force d'Evgeny Prigojine. Vu d'Ukraine, Evgeny Prigojine, j'en ai marre de répéter son nom.
Pas facile. Hein.
Si, c'est pas ça, c'est pas trop difficile, mais ça se répète beaucoup. A semé le chaos, Vladimir Poutine n'est plus le mâle alpha de la politique russe. Vu du Royaume-Uni, l'hebdomadaire The Spectator se méfie. Gare à l'animal politique blessé. L'espionnage américain était au courant qu'Evgeny Prigojine projetait une action armée en Russie, a révélé le 24 juin The Washington Post. Aux États-Unis, on pense plutôt que Poutine est pris à son propre piège. En Turquie, on retrouve un parfum du putsch raté de 2016. Pour la presse d'Afrique du Sud, soutenir Poutine est une erreur historique. Pour Il Foglio, en Italie, l'ambition de l'UE sur la scène internationale est minée par son incapacité de prévision et son inconsistance géopolitique. En Afrique, le journaliste Boubacar Sensoberry, dans le Djelaï du lundi 26 juin, avance sur un ton sévère. En misant sur Wagner, on s'associe à un partenaire peu fiable. Quel avenir pour Prigojine et Wagner en Biélorussie? Si vous vous posez cette question, le courrier s'efforce d'y répondre avec divers experts. Et en refermant cet hebdo, vous serez vraiment éclairé sur cet événement surprenant.
Pour l'Express, en Russie, l'après-Poutine a commencé. Cela pourrait être le début de la fin.
C'est l'analyse de Charles Hacquet et Cyril Pluyette. Même inabouti, le coup de force d'Evgeny Prigojine marque un tournant qui a mis au jour les faiblesses du Kremlin. L'Express consacre lui aussi un long dossier aux événements du week-end dernier. Analyse, décryptage, entretien, chronique se succèdent tout au long de ces pages. Mais pour changer de sujet, j'ai choisi de vous inviter à lire, page 64, l'article d'Antoine Beau. OVNI, alien et théorie du complot aux origines d'un emballement médiatique. Selon David Grush, vétéran américain, les États-Unis détiendraient des vaisseaux extraterrestres, une théorie qui rappelle les nombreuses confusions entre OVNI et aliens récurrentes ces dernières années. Faut dire qu'en plus d'être captivant, David Grush se révèle aussi une source très bien placée. Après avoir travaillé pour les renseignements américains, il a rejoint l'UPI Task Force, un bureau militaire créé en 2017 pour enquêter sur les phénomènes anormaux inexpliqués. Diplômé de physique, David Grush aurait pu avoir accès à des informations classifiées de cette nature, les identifier et les transmettre au Congrès américain comme il l'assure. Sauf qu'une telle histoire a très peu de chances d'avoir existé. Pourquoi la rencontre du troisième type ressemblerait-elle à des crashs sur le territoire des États-Unis qui plus est, comme dans les films? voir des événements anormaux ne prouvant rien la présence d'une autre civilisation. Reste que l'idée d'une rencontre avec E.T. n'est pas loufoque. Si l'on regarde ce qui s'est passé sur Terre, le plus probable est qu'une forme de vie ailleurs dans l'univers soit en majorité l'apanage d'organismes extrêmement primitifs de l'ordre de la bactérie. L'essentiel de la recherche sur la vie extraterrestre repose sur l'étude de la composition des planètes les plus proches parmi la dizaine de milliards considérées comme habitables dans notre galaxie. Ni trop proches, ni trop éloignées de leur étoile, solides, avec de l'eau à l'état liquide. Avec les progrès des appareils de mesure, certains scientifiques parmi les plus influents sur le sujet, comme l'astronome du SETI Seth Shostak, osent désormais clamer haut et fort qu'une telle découverte n'est plus de la science-fiction et pourrait même intervenir dans les prochaines années. Que David Grosch se rassure, le face-à-face tant attendu pourrait ainsi arriver très bientôt. Et grâce aux États-Unis, pays en pointe sur le sujet.
Le Canard Enchaîné aussi analyse ce qui est arrivé en Russie, mais pas que.
Depuis le week-end dernier, vous savez peut-être que le JDD est en grève. Les canetons cancanent. Bolloré persiste et signe. JDD, ça veut dire journal d'extrême droite. Mais ce qui a monopolisé la rédaction du Volatile, c'est évidemment le coup de force de la milice Wagner. À la une, Poutine a les mercenaires à vif. Et l'édito, spécialement spécial, d'Éric Emtaz, résume les événements et conclut. Mais il serait vraiment étonnant que Poutine ne soit pas en train de concocter une opération spéciale pour punir celui qui a ainsi sévèrement bafoué sa stature et son autorité. Trois dessins illustrent ce bref et stupéfiant événement sur la une, mais il y en a d'autres sur le sujet tout au long des 7 pages du Canard. Alors je retiens toujours à la une l'article signé JMT. Derrière ses initiales se cache Jean-Michel Thénard, qui est un des rédacteurs en chef du Canard, et intitulé « Quel naufrage !» qui constate qu'avec cette histoire de sous-marin pour milliardaires construit à l'économie pour reposer à côté du Titanic, on a touché le fond. Beaucoup se sont étonnés du battage médiatique mondial et ininterrompu autour du Titan et de ses 5 passagers, alors que la noyade de 700 migrants causée par la marine grecque dans ses eaux territoriales n'a pas suscité autant d'émotions.
Le 1, pour info, rappelle que le 24 mai dernier, il avait consacré le numéro 448 à Wagner, le bras armé de Poutine, dont acte. Il n'y revient donc pas. Le thème de la semaine, fait divers, autopsie d'une fascination.
Le fait divers a le vent en poupe, constate Patrice Trappier dans le Zakouski. Émissions de télé et de radio, romans et documents, podcasts, docu-fiction, c'est le retour de l'individu raconté dans sa vulnérabilité. Tragédie et affaires criminelles occupent une grande place dans notre conversation publique. Nous avons voulu comprendre, dans ce numéro du 1, ce qui fonde cette obsession. Naguère, raconte Robert Solé, on appelait ça la rubrique des chiens écrasés. En page 3, Alice Géraud nous explique qu'elle a enquêté sur l'envers d'un fait divers dans un ouvrage intitulé « Sambre », un livre enquête qui redonne une voix aux victimes d'un violeur en série, Dino Scala, alors que la police et les médias les ont peu ou prou ignorés. Sortir du fait divers pour s'interroger sur ce qu'il nous raconte d'une société. Ici, du traitement des victimes d'agressions sexuelles et de viols ces 30 dernières années, depuis la fin des années 80 jusqu'à notre ère, l'ère MeToo. Jochen Gerner, lui, a choisi d'illustrer à sa façon 11 affaires marquantes. Et dans l'entretien, Emmanuel et Mathias Roux, deux frères, philosophes et magistrats, nous éclairent sur le passage du fait divers à l'affaire criminelle, qui prend alors une dimension politique, sur ce que le fait divers dit de notre société, ou pas. Sur le poster, Claire Secaille, historienne, étudie ce qui a changé de 1869 à nos jours et, à la télévision, de la censure à la surenchère. L'essor de l'information en continu et des réseaux sociaux numériques modifie le régime de perception des violences, explique-t-elle, avec le partage croissant d'images filmées par des téléphones portables ou des caméras de vidéosurveillance. Alors là, j'ajoute qu'on peut dire que l'actualité de ces trois derniers jours le prouve une fois de plus. Élise Costa, journaliste chronique judiciaire, titre son article « Tragédie radioactive ». Elle conclut « Comme il est souvent répété dans les cours d'assises, les monstres n'existent pas, il n'y a que des actes monstrueux ».
Télérama, cette semaine, nous éclaire, comme d'habitude, sur les événements culturels importants.
Alors cette semaine, au théâtre surtout, Avignon commence bientôt. Julie Deliquet sera la deuxième femme à mettre en scène dans la cour d'honneur à Avignon. Son inspiration, un documentaire social des années 1970. Elle est l'invitée de la semaine. Avignon accueille le théâtre britannique. Welcome in Avignon! Thiago Rodriguez, nouveau directeur de la manifestation, a choisi de rendre hommage à la langue anglaise dans toute sa diversité littéraire, comme un pont d'Avignon enjambant l'effroyable Brexit de 2016. Désormais, chaque édition du festival mettra à l'honneur une langue étrangère pour mieux réaffirmer sa dimension internationale. Bonne initiative, Mr. Rodriguez. Dans Télérama, ne manquez pas les petites infos distillées dans, par exemple, la chronique Telegram. En voici deux. Taxer les revenus du streaming, Spotify, Deezer et compagnie, au profit de la création musicale. L'idée traîne depuis l'automne et c'est visiblement trop long pour le président de la République Emmanuel Macron. Il a semé les acteurs de la filière d'arriver à se mettre d'accord sur une contribution obligatoire d'ici au 30 septembre. Sinon, il demandera au Parlement de l'imposer. Ah, mais en voici une autre. Et deux nouvelles amendes pour C8. Deux, pas pour des insultes ou des menaces de Cyril Hanouna cette fois-ci, mais pour la publicité clandestine. Selon l'ARCOM, la chaîne a un peu trop montré certains logos et marques de vêtements, chaussures et bijoux portés par l'animateur ou ses acolytes lors d'émissions de novembre et janvier dernier. Montant total des douloureuses, 200 000 euros. Dans une autre chronique intitulée cette semaine « Nous sommes », par exemple, transportés par une riche anthologie et son journal sur la genèse d'À l'Est d'Éden qui atteste de la modernité de John Steinbeck. Ou bien atterré par Lisa Yuskavage qui peint des tableaux où figurent souvent des tableaux. Mais l'art, où est-il ?
Tiens, Rob Bresnim paraît bien excité par l'horoscope des cancers cette semaine.
Les sortilèges sont conjurés, les maléfices exorcisés, les démons chassés, les intrigues déjouées, les ennuis terminés, les mauvaises habitudes remplacées par de bonnes. Et ce ne sont encore là que quelques-uns des prodigieux bouleversements qui se profilent sur ta proche destinée, cancer. J'exagère peut-être un peu, mais pas tant que ça. Je lis dans ton avenir que tu es appelé à incarner une amulette porte-bonheur et une boule d'énergie positive, une phase d'optimisme débridé s'ouvre, durant laquelle, si tu y mets du tien, tu parviendras à éliminer au moins 80% des désordres, contrariétés et impuretés qui encombrent ta sphère. Alors mais, je ne voudrais pas vous quitter. Avant de vous dire combien j'ai été heureuse de vous retrouver chaque semaine dans le studio Philippe Rouillet de la Maison des Arts, en compagnie de Léo, mon très cher compagnon de jeu.
Je t'embrasse très fort aussi, Arlette.
Et sans vous demander de me pardonner les prononciations souvent nullissimes des noms propres aux étrangers. Alors, bonnes vacances. N'oubliez pas de lire les hebdos. Ils vous aident à réfléchir et c'est très utile.